pour les constructeurs automobiles et Kia viennent de le renouveler, le Seltos, pour une toute nouvelle génération. Il est plus gros qu'auparavant, offre plus d'espace à bord, offre plus de coffres aussi et on lui a vraiment fait un traitement VUS carré, très identitaire maintenant. Il est un petit peu plus haut également, donc on veut vraiment jouer la carte ici de la robustesse tout en conservant des mécaniques qu'on connaît très bien. Je l'ai mis à l'épreuve dans la région de Québec, c'était au lac Beauport le lancement, toujours le fun de le dire quand c'est dans notre coin.
Ben
On a
oui.
fait le lancement canadien au lac Beauport et on a pu mettre à l'épreuve ce nouveau véhicule-là qui a connu une augmentation de prix pour 2027. On parle quand même de 2 400 $ de différence, donc il va débuter aux alentours de 31 500 $, puis on peut se rendre jusqu'à 44 500 $ comme la variante que j'ai moi-même pu mettre à l'essai. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que si vous aimiez l'ancien Seltos, celui-là est complètement différent. On le ramollit, il est beaucoup plus doux sur la route. Je trouve qu'il offre plus d'espace, mais il est moins dynamique qu'il l'était auparavant aussi. On a essayé de jouer une carte, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, VUS, et je crois qu'il y a des gens qui vont être attirés vers ça, d'autres qui vont peut-être s'ennuyer du côté un petit peu plus
Ah
petit,
ouais.
un peu plus dynamique de l'ancienne mouture. Pour rassurer tout le monde, Kia lance aussi une variante hybride qui s'en vient à la fin de l'année. Ça, c'est une première, une mécanique que j'attends avec impatience qui risque de vraiment changer le comportement dynamique du véhicule. On va lancer 5 variantes dès l'arrivée du produit et j'ai l'impression que Kia veut arriver avec le couteau entre les dents. On va arriver avec un prix alléchant, une mécanique hybride dont la cote actuellement. Donc, je pense qu'on va essayer de rentrer très fort dans ce segment.
Ah, puis on a besoin de ça, des véhicules qui sont de moins en moins chers, mettons, on va se le dire, là. Sam, on s'était dit aujourd'hui qu'on prendrait des questions d'auditeurs. Il y en a déjà quelques-unes de rentrée. Vous ne vous gênez pas au 88-971-1021. Avant, je suis tombée sur une étude un peu plus tôt aujourd'hui qui révèle que plus d'un tiers des Canadiens ont été personnellement touchés par le vol d'automobiles. Seulement 18% croient que les nouveaux véhicules sont protégés adéquatement contre le vol, fondé sur les technologies modernes, évidemment, là. Et on a bon, plein de statistiques. Là, on dit entre autres que 75% des Canadiens pensent que c'est nécessaire de rendre obligatoire la technologie anti-vol dans les véhicules, étant donné que la confiance dans la sécurité diminue un peu. T'en penses quoi de ça?
J'en pense que les constructeurs font pas grand-chose encore pour essayer d'améliorer la situation. On reste un peu sur le statu quo en proposant des technologies qui se sont montrées déjà lacunaires actuellement. On voit que les véhicules sont encore trop susceptibles de se faire voler. Certes, on a resserré les vis un peu partout au Canada. On a parlé entre différents paliers gouvernementaux pour essayer de serrer justement les mesures pour bloquer les vols de véhicules, mais ça n'a pas réglé le phénomène à 100%. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on n'a pas d'innovation vraiment dans le marché automobile. Et là, qu'est-ce qui commence à faire mal aux constructeurs, c'est qu'il y a des véhicules qui coûtent une fortune en assurance, pas seulement des véhicules spéciaux ou très haut de gamme. On parle des véhicules familiaux ou généralistes
Ben
qui
oui.
peuvent se faire voler trop fréquemment et
Hey,
donc faire
Sam,
augmenter les primes
il y a
d'assurance.
une couple d'années, là, j'avais une Elantra de chez Hyundai. Puis je comprenais pas pourquoi ça me coûtait 150 $ par mois d'assurance. Je capotais, j'appelais partout. Puis j'avais fini par demander, voyons, c'est un petit char, c'est comme le moins cher sur le marché, là. Puis on m'avait dit, ben c'est celui qui a le plus de cas de vol et vandalisme actuellement. Fait que malheureusement, les assurances montent, tu sais.
C'est toujours relié à ça. Donc là, il y a des constructeurs qui ont cette épine dans le pied-là parce que leurs véhicules chouchous se font voler et donc les gens magasinent leurs assurances avant de les acheter. Puis là, ben, ils se rendent compte que ça coûte 2 000 $ 3 000 $.
Mais
Ça coûte
oui.
trop cher. On ne veut pas payer ça. Puis là, on annule des ventes. C'est un phénomène qu'on sent. On voit quand même qu'il y a de l'amélioration. Ce que ça prouve, cette étude-là, qui a été faite, c'est surtout de dire, ben, il y a encore un problème. Puis la perception du public est encore mauvaise face à la protection de nos véhicules. Sont encore trop susceptibles de se faire voler, puis clairement, ça ne fonctionne pas assez.
Nous, qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, pour ça?
Et tu sais, un des bons vieux trucs, c'est de mettre la fameuse barre sur le volant. Si vous êtes vraiment inquiet, il n'y a rien de mieux qu'un antivol physique pour essayer de dissuader les voleurs. Ça, c'est une barre qu'on installe pour tenir le volant en place. Et tant aussi longtemps qu'on n'a pas enlevé la serrure de cette barre-là, on ne peut pas tourner le volant du véhicule. C'est un petit peu plus difficile à voler, vous comprendrez donc. Donc ça, c'est des systèmes qui sont disponibles qu'on peut ajouter soi-même. Mais moi, je trouve ça plate qu'aujourd'hui, on demande des trentaines de milliers de dollars aux gens pour avoir des véhicules qui sont plus faciles à voler qu'auparavant. Ça, je commence à trouver ça irritant pas mal. Puis inquiétez-vous pas, on chauffe l'industrie par rapport à ce sujet-là.
La fameuse barre de volant, c'est drôle parce que souvent je la vois, puis on dirait que pour moi c'est quasiment plus esthétique. Puis on dit ça va-tu vraiment décourager le voleur? Je me dis, si le voleur est équipé pour voler un char, dans ma tête, il est équipé pour l'enlever assez facilement, cette barre de volant-là.
C'est une excellente analyse, Max. La seule affaire, c'est que dans le cas des vols maintenant, c'est tellement rendu technologique qu'on n'utilise plus tant d'outils. On va prendre un iPad ou des systèmes informatiques pour le faire, mais la barre, elle, c'est physique. Fait qu'on
C'est
n'a plus,
intéressant.
on traîne plus des tournevis comme avant ou des fils de fer pour passer ça dans la fenêtre pour enlever les serrures. T'sais. Ça, c'est fini cette époque-là. Fait que malheureusement, la barre reste encore une solution très intéressante parce que les vols sont rendus technologiques. La barre n'est pas du tout. Puis souvent, les voleurs, quand ils vont faire ça, ils vont faire, écoute, tant qu'à me casser la tête avec ce produit-là, je vais aller voir le prochain dans le stationnement plus loin.
Et que son lâche.
Oui.
De plus en plus. On est avec Sam Tremblay-Michaud pour ceux qui viennent de se joindre à nous, chroniqueur automobile, journaliste automobile aussi pour RPM. Et il y a des questions déjà qui entrent, Sam, puis je veux te lire un message. Jay qui nous dit, je veux prendre le temps de remercier Samuel. J'avais posé la question si la Sienna AWD hybride, c'est un bon choix. On a un depuis... la mi-mai, une 2026, on l'adore, très pratique, confortable pour la famille. Fait qu'il te remercie encore de tes conseils.
Content d'entendre ça fait plaisir,
Ben,
vraiment.
c'est le fun d'avoir du feedback, je trouve, des fois, parce que t'es là, puis tu donnes des conseils gratuitement, puis tu nous jases, mais je veux dire, c'est cool de savoir que les gens écoutent au final, là.
Vraiment, très intéressant.
OK, première question que j'ai via les Instagram. Quel est le meilleur crossover dans les sous-compacts avec un budget de 25 000 $?
Avec 25 000 $, il va falloir regarder peut-être pour l'usager. C'est triste à dire, mais maintenant, les VUS sous-compacts vont tous commencer aux alentours de 30 000 $. Ça peut aller vite avec le financement, avec les taxes et compagnie. Si on regarde toutefois avec cette idée-là en tête, j'ai pas envie de faire changer tous vos plans, mais il y a des voitures compactes qui pourraient répondre à vos budgets. On a nommé la Hyundai Elantra qui rentre là-dedans, la Kia K4, même la Toyota Corolla pourrait rentrer dans votre budget. Si vous voulez vraiment avoir un VUS, je vous invite à vous tourner encore une fois vers ces marques généralistes-là. On peut avoir un Kona, même le nouveau Kia Seltos, on peut arriver sensiblement dans vos budgets. Si vous désirez rester vraiment autour du 25 000 $, je vous invite à aller voir des produits comme un Subaru Crosstrek, par exemple. Allez voir un Subaru Crosstrek 2024-2025, une machine qui a fait ses preuves et qui risque, malgré sa dépréciation, d'être autour du budget que vous regardez et donc va vous faire une bonne voiture pour un bon prix.
On a une question de Geneviève qui dit, j'ai une Honda Civic 2020 avec moins de 85 000 km. J'ai fini de payer mon véhicule et là, mon concessionnaire depuis un an me rappelle sans cesse pour que je puisse vendre mon auto et racheter une nouvelle auto. Sa question, c'est pourquoi les concessionnaires sont aussi harcelants?
Bien, premièrement, vous allez le garder, j'espère, votre Honda Civic. Je pense que vous faites vraiment la bonne chose. Gardez-le. C'est vraiment un très bon produit que vous avez entre les mains. Pour répondre à votre question, c'est simplement une question de vente, hein. T'sais, on fait de l'argent lorsqu'on réussit à vendre des voitures. Les conseillers automobiles font leur souci avec des commissions qui sont reliées aux ventes. Et souvent, bien, on essaie d'aller travailler notre clientèle dans les coins, en bon français, en leur parlant d'incitatifs, de soirées VIP exclusives pour nos clients qu'on aime et qu'on veut chérir. Mais l'idée, c'est toujours de vous revendre un véhicule et donc de faire des sous. Moi, je vous invite à le conserver. Et si vous êtes tanné des appels de votre concessionnaire, gênez-vous pas de lui dire que vous êtes tanné.
Ça se dit
Parce
ça?
que oh, ça se dit, j'espère que ça se dit. C'est vous le consommateur, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, tant que ça reste poli, bien évidemment. Mais on peut clairement l'affirmer ouvertement que là, vous êtes tanné puis que vous voulez garder encore votre Honda Civic pour longtemps. Je pense qu'ils vont commencer à arrêter de vous appeler un petit peu.
Comment est-ce qu'on trouve le HRV traction intégrale, niveau fiabilité, consommation, etc.?
On est là pour ces points-là. Fiabilité, consommation, je pense que c'est pas un produit qui me déçoit. Moi, ce qui m'a déçu, surtout du HRV, c'est l'assemblage général, puis c'est le manque d'innovation de ce véhicule-là. Honda nous avait tellement habitués à avoir des habitacles super bien réfléchis, beaucoup d'ergonomie, beaucoup d'espace de rangement. Donc, c'est pas le cas de cette nouvelle génération-là, qui est un petit peu plus, ici, vous me permettez, flat, en bon français. Là, c'est une génération qui a moins de saveur. C'est un segment qui est ultra concurrentiel aussi. Tu sais, quand on pense à du Corolla Cross, à du Subaru Crosstrek, justement, c'est des produits tellement fort dans le marché qu'il faut se réveiller de bonne heure pour concurrencer ça. Et le Honda HR-V n'a pas l'air d'avoir mis son alarme, là. Je dirais que c'est un véhicule qui a manqué le bateau un peu. Donc, ce n'est pas un mauvais produit pour la consommation et la durabilité, mais ce n'est pas un produit qui est très innovant non plus.
On a Sébastien qui a besoin d'un conseil. Quoi choisir comme voiture électrique usagée en bas de 7 000 $ et quoi vérifier avant l'achat pour petite ou longue distance?
C'est une excellente question. Puis la question la plus importante que j'allais poser, c'est-tu pour des petites ou des grandes
Ah, voilà.
cycleuses? Parce que ça va faire beaucoup de différence dans les chevaux disponibles. Moi, je vous invite à vous tourner vers des valeurs sûres. Je pense entre autres à la Chevrolet Bolt de première génération. On va peut-être réussir à l'avoir autour de 10 000 $ plus que 7 000 $, mais n'empêche que c'est un produit qu'on connaît extrêmement bien, que le constructeur a continué de fournir des pièces pendant longtemps et qui va être facile à entretenir et réparer. C'est un produit qui s'est montré fiable aussi, donc ça, c'est rassurant. Chose à savoir, c'est qu'il faut toujours faire une inspection d'un véhicule comme si c'était un véhicule à moteur thermique. On va voir un garagiste qui connaît bien les voitures électriques et on peut même mesurer encore la batterie pour savoir si la batterie est encore performante ou pas, un peu comme un téléphone intelligent. Là, on peut savoir le niveau de pourcentage de la batterie. Donc, moi, je vous invite à faire toutes ces étapes-là avant de signer l'achat final pour être sûr que vous embarquez pas dans des gros frais et ou avec un véhicule qui a un problème majeur au niveau de la batterie. Mais quand ça, c'est tout vérifié, vous embarquez dans une belle aventure, c'est sûr et certain.
Vol d'automobile, est-ce que le cadenas pour les prises OBD2, je me croirais dans Star Wars, sont vraiment utiles?
Oui, c'est une autre manière de faire. C'est un petit peu plus technologique, là, mais on met comme un pare-feu, si vous voulez, sur l'ordinateur du véhicule. Donc, quand on quitte, on dit, bien, on ferme l'ordinateur. Puis comme ça, si un voleur essaie de pirater notre honte de clé puis réussir à entrer dans le véhicule, bien, on peut le barrer à distance. Donc oui, ça peut être efficace. Moi, je suis un gars classique. C'est pour ça que je vous parle toujours de bord de volant, mais ça peut fonctionner.
Et Sam, j'ai envie de terminer en te posant une question que mon père avait pour toi et qui peut-être peut répondre à des auditeurs, OK? Quel est le meilleur camion d'occasion à acheter cette année d'une valeur entre 40 et 50 000 pour une utilisation quotidienne? Fait que pas pour des travaux, pour tirer une remorque ou quoi que ce soit, là, mais vraiment, c'est de façon hebdomadaire et aller à l'épicerie, faire ses affaires, mais parce que tu tripes troc, là. Je sais que mon père a une préférence Toyota Tundra, là, mais as-tu des recommandations?
Voiture Toyota Tundra, ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée. La seule affaire, c'est qu'on va traîner surtout l'ancienne génération, un moteur qui consomme énormément. C'est un moteur qui boit tellement que ça va devenir désagréable de l'utiliser au quotidien. Moi, je pense à des camions simples quand on parle de ce genre de questions-là. Entre autres, un Ram 1500 classique avec un moteur V6 3,6 litres. C'est le même moulin qu'on met dans un Dodge Caravan. Fait que c'est un petit moulin qu'on connaît très bien, qui a fait ses preuves en termes de fiabilité. Vous allez avoir le gros pick-up, vous allez avoir le véhicule qui est un vrai camion. C'est pas un moteur qui est agréable pour remorquer, par exemple, pour un entrepreneur général ou des choses comme ça. Mais si c'est juste pour de la balade quotidienne, facile à entretenir, pas cher sur le gaz, bien confortable comme machine, je pense que ça serait un choix tout à fait logique.
Ça fait un job. Il y a quelqu'un qui dit un Tacoma, tu dis quoi de ça?
Tacoma, très bon choix aussi. Un petit peu plus cher, par contre, hein, dans l'occasion, ça va vite, un Tacoma, puis les valeurs de revente sont extrêmement élevées. Puis, tu sais, il faut l'essayer, le Tacoma. L'habitacle de tout ça, c'est pas pour tout le monde. Moi, je trouve ça restreignant comme espace, puis c'est clairement pas pour tout le monde.
Écoute, je te disais dernière question, mais là, ça rentre. Salut, Jérémy. Petit Mazda de B2200. Est-ce qu'il y a des équivalents aujourd'hui? Deux par quatre, si possible.
La réponse est non. Des B2000, c'était une série qui était tellement intéressante là, qu'on a adoré, qui était un peu comme les Ford Ranger qu'on a connu à l'époque aussi. Il n'y a pas grand-chose qui existe dans cette grosseur-là. Tu sais, je pourrais vous parler d'un Ford Maverick, mais c'est un Ford Escape avec une boîte. C'est pas du tout le même principe. Tu sais, après ça, quand on tombe dans la catégorie des Tacoma, des Ranger d'aujourd'hui, des Colorado, un peu trop gros, beaucoup plus cher, sont pas deux pattes non plus. Fait que ça commence à être plus complexe. Malheureusement, des petites camionnettes de même, il n'y en a plus. Ça existe comme plus sur notre marché. Il n'y a pas d'équivalent non plus. J'aimerais ça vous dire, ouais, voici la solution miracle, mais à moins d'aller vous chercher un Tacoma le plus de base possible. Puis ça, c'est très rare parce que les concessionnaires ne les veulent pas. On vous amène toujours des versions plus équipées pour les vendre plus cher, là. Mais à moins de vous commander un Tacoma tout nu, il n'y a pas grand-chose qui va ressembler vraiment à ça.
Bon, Sam, là, je t'ai menti, là. J'essaie de deux dernières, puis je te laisse aller, OK?
Il n'y a pas de stress.
Ford Bronco, qu'est-ce qu'on en pense? J'ai un Kia Seltos 2023. Est-ce une amélioration d'acheter un Bronco?
C'est très différent. Là, si on parle du vrai Bronco, parce qu'il y a le Bronco Sport, on a le Bronco régulier. Le Bronco régulier, qui est un peu plus un VUS hors route, châssis en échelle. C'est assez confortable. Moi, je le trouve plus confortable que le Jeep Wrangler, mais n'empêche que c'est un produit qui vraiment différent à conduire au quotidien aussi, beaucoup plus gros, consomme plus d'essence. Ça dépend pour vous, c'est quoi une amélioration? Est-ce que c'est ça que vous recherchez? Si la réponse est oui, ben c'est sûr que c'est très différent et donc ça peut répondre à vos besoins, mais sachez que vous embarquez dans une autre machine. Là. En termes de coût d'entretien, de fiabilité puis de rappel, Ford score vraiment pas haut avec ce produit-là, donc ça dépend de vos attentes.
Et pour terminer, sinon je vous envoie sur son Facebook. Famille de 5, 3 enfants en bas âge, est-ce qu'il y a quelque chose à recommander dans le hybride électrique si possible?
Oui, bien, dans les hybrides, rapidement, je pense au Toyota Sienna hybride qu'on a parlé tantôt, un véhicule que je pense qui pourrait être très intéressant pour l'espace. Si vous n'aimez pas le look mini-fourgonnette, je pense entre autres au Hyundai Santa Fe qui maintenant est offert uniquement en version hybride. Faut aimer le style. Moi, je l'adore, mais ça dépend du monde. Mais n'empêche que c'est un produit qui est spacieux, qui va répondre à vos besoins familiaux et qui est hybride également, donc pas trop dur à la pompe. Je pense que ça peut être un produit très sérieux à considérer.
Sam, je te remercie énormément de nous avoir fait une place dans ton horaire en plein milieu d'un aéroport avec du monde qui passe à côté de toi.
ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. J'étais quasiment inquiet.
Ça me faisait rire pour toi. Je voyais le monde passer derrière et je me disais, il est concentré parce que moi, je n'aurais pas été capable.
J'espère surtout que les gens autour de moi aiment les voitures parce que ouais, sinon, j'ai été dérangeant.
Ils t'entendent parler. Hey, bon voyage, bon petit séjour du côté du Michigan. Tu nous en reparleras.
On s'en parle sans faute. Bye
Salut.
Bye.
Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, journaliste automobile pour RPM. Si vous voulez lire, rpmweb.ca, tout simplement. Mon Dieu, Sam qui... Ça me fascine parce que Sam, on a commencé à faire des chroniques avec, puis moi, je suis allé à l'école avec Sam. Puis c'est un gars qui a étudié en radio, vous l'entendez, je veux dire, tellement bon communicateur. Là, ça n'a pas de bon sens, là. Puis tu sais, Sam, c'est un gars qui faisait de l'impro, il était impliqué un peu partout, toujours eu cette passion-là de l'automobile, mais tu sais... Tu te dis, c'est quoi le chemin pour devenir journaliste automobile, tu sais? Fait que lui, s'est mis à se partir une page Facebook.
Ben oui.
À répondre aux questions du monde, à faire des chroniques à Kick au Saguenay, faire des chroniques avec nous à Boulevard. Puis là, de plus en plus, je veux dire, le gars, il est bon, il sait de quoi il parle, puis il est capable de répondre à n'importe quelle question sur le fly.
Moi, j'aime ça, le monde qui construise leur carrière de ouais. rêve.
Mais lui, c'est littéralement ça.
Ouais.
Puis quand il s'est mis à travailler pour RPM, c'est un rêve de ticu, là. Puis là, tu comprends, il trippe, là. Puis c'est tellement pertinent ce qu'ils sont capables de faire sur le rpmweb.ca. Moi, ces chroniques me fascinent toujours. T'sais, c'est au-delà de quelle auto choisir. Des fois, c'est « Hey, c'est quoi tes droits, toi, mettons que la garantie n'est pas respectée? » Mettons que tu payes ça puis tu avais l'impression que c'était inclus puis ce l'était pas, finalement.
Mais il y a une réponse à tout. Moi, c'est ça qui me fascine. Des fois, tu sais, on lit des questions pour Sam dans les textos.
Je comprends rien.
Moi, je comprends pas la question. Je me dis, est-ce que lui, il va comprendre? Puis tout de suite, il est comme, oui, bien sûr. Puis là, il commence à répondre, il sait tout.
Ça se dit, là, hey, je ne sais pas, je reviens avec l'info, mais c'est jamais arrivé. Si vous avez des questions pour Sam, il est assez assidu. C'est sûr que depuis qu'il voyage et travaille avec RPM, c'est pas des réponses dans l'heure. Mais si vous avez des questions, Sam Tremblay-Michaud, Samuel Tremblay-Michaud, en fait, chroniqueur automobile, c'est sa page Facebook personnelle. Vous pouvez le rejoindre aussi via le site d'RPM, évidemment. Écoute, il est déjà allé carrément booster un auditeur, là. C'est quelqu'un qui est vraiment très présent pour les gens.
Un vrai passionné.
Oh, ouais, ouais. Donc, vous l'entendrez évidemment à l'automne avec nous encore dans Gravel en retour. Pour l'instant, d'ailleurs, Gravel en retour, on est ensemble à partir du 3 août. Pour l'instant, c'est le retour de Boulevard. Je m'appelle Audrey. Antonine qui est là, Max qui est là également. On revient dans les prochaines minutes. Le retour. À 17h22 à Boulevard 102.1, fait toujours un 26 degrés à l'extérieur, 31 ressenti. Les nuages commencent à foncir un petit peu. Quelques averses possibles ce soir avec 16 degrés. Demain, on est à 23. Des averses et ça risque de se dégager en soirée avec 16 degrés parce que jeudi, vendredi et samedi, techniquement, si la vie est bonne, c'est gros soleil. Jusqu'à dimanche, là, c'est des fortes possibilités d'averses. Mais regarde, on va y aller un jour à la fois. Pour l'instant, c'est du soleil.
C'est trop loin, ça.
On va vivre dans le déni. Moi, je regarde, je préfère ça. Sur les routes, encore quelques problèmes sur la capitale, direction est à la hauteur de Robert Bourassa. Il y a sur route de Fossambeau à la hauteur de la Jacques-Cartier où on sent un petit ralentissement encore, là. Henri IV Sud dans le coin de Charest, il faut vraiment le dire vite. La 20 direction ouest dans le coin de Chemin des Îles et Taniata, mais encore une fois, rien pour appeler sa maman. Tout semble rouler de façon exceptionnelle sur les réseaux routiers, ben, sinon. Donc, s'il y a quoi que ce soit, c'est le 418-971-102. J'aime Max. Comment ton ben désintéressé
Non, mais c'est comme ben.
Je pense que c'est le mot que Max dit le plus dans une journée quand tu sais pas quoi répondre à quelque chose.
Mais comme tout le temps, comme ben je disais à un moment donné avec une amie qu'il fallait que je me fasse tatouer. Ben, wow. Maintenant, on avait François Legault en entrevue, puis il parlait de quelque chose.
J'ai lâché un bon.
Parce qu'on parlait de souveraineté du Québec, puis là, il est parti, puis j'ai comme lâché un bon. J'étais comme, Je peux pas faire ça un premier ministre.
C'est comme le béon avec le moins d'intérêt que je connais sur Terre. Là,
mais non, mais ça dépend. Il y a plusieurs intonations. Comme là, c'était un bounce, genre bon, ben tant mieux, tout va bien. Des fois, c'est un bounce, check là qui part puis qui dit n'importe quoi. Puis,
ça s'adapte.
C'est vraiment ça. Oui, vraiment.
C'est ce que tu me dis.
Ouais.
OK. Ben parfait, j'en prends note. Sur une note un peu plus positive, je vous ai gâté un peu plus tôt avec la cour arrière de Lévis. On vous offrait carrément un 5 à 7 pour aller avoir du fun avec 4 personnes, des consommations. On a fait le gagnant. Mais là, je vais vous envoyer du côté du festival parce qu'un festival n'attend pas. Bon! N'attend pas l'autre. Le fait qu'il est terminé, le prochain, c'est le festival du 29 juillet au 2 août du côté de Lévis. C'est présenté par l'Auto-Québec et la programmation qui est quand même solide dans les dernières années. Là. Moi, c'est un des premiers festivals auxquels j'ai été quand je suis arrivée à Québec en 2019. Sean Paul, c'était vraiment mauvais, là, mais je veux dire, l'effort était là. C'est pas la faute du festival, c'est Sean Paul qui a pas livré. Je me souviens que j'avais vu la chicane aussi, sa petite scène en diagonale. Ils l'ont changé de place, mais ça avait vraiment été une belle soirée.
Bon.
Cette année, moi, je suis tellement tannée.
Bon.
Cette année, Marshmello qui est là, Sale Barbe également, Papa Roach, on a eu la chance d'aller voir du côté du Festivois à Trois-Rivières, Jacoby Chalix qui donne toujours un super bon show. C'est deux kids qui sont venus le rejoindre sur le stage, ça brasse, c'est le fun. Il y a The Offspring qui sera là aussi la dernière journée. Jeff Posey, on a parlé un peu, mais on a hâte de voir parce que majoritairement, il risque d'y avoir beaucoup, beaucoup de chansons des Cowboys fringants, fait que ça va être super intéressant. J'ai l'impression que ça va être une soirée très, très nostalgique et émotive. Angine de Poitrine qui va être avant The Offspring, Vulgaire Machin, fait quand même des pas pires noms. Fait 40 ans, le festival, que c'est la destination pour la musique, les familles, les montgolfières, il y a toujours les petits manèges, les food trucks. Aussi, c'est un événement plus grand que la musique. Donc, on est partenaire et on vous donne carrément une paire de laissez-passer pour les 5 jours. Donc, 88-971-1021 texto. Quel band ou artiste...
Je pensais écrivez bon.
Bon, hey, faites donc ça. Tain, ben,
comme vous voulez. Là,
n'importe quoi.
Comment ça, vous trouvez que ça s'écrit, là? Ben.
Une phrase qui commence par ben.
Votre numéro de téléphone, votre nom, évidemment, pour être capable de gagner votre laissez-passer pour les 5 jours du festival. Ben, Max! Ben,
les nouvelles!
Les nouvelles!
Yes! Hey, je commence avec... ça brasse en Simonac, en Montérégie. Des gros orages, ce qui fait qu'en ce moment, il y a 35 000 adresses privées de courant du côté de la Montérégie, quelques-unes aussi. Là. Et puis quand je dis quelques-unes, c'est des milliers dans les Laurentides, en Estrie, où des orages assez violents ont frappé dans les dernières heures. Donc on va continuer de suivre ça. Ça devrait continuer de frapper là, ce soir, plus dans le sud du Québec. Là, c'est pas quelque chose qui devrait nous toucher ici dans la région. Mais pour ceux qui ont peut-être l'intention de se rendre là-bas, quoique là, bon, c'est mardi soir, là, j'imagine que c'est plus mollo, ou qui ont de la famille là-bas ou quoi que ce soit, en Montérégie, ça brasse avec des orages actuellement. Sinon, dans les nouvelles, on est pas mal dans les mêmes affaires depuis le début de la journée. Notamment deux accidents qui retiennent l'attention. Un premier impliquant une jeune fillette de 2 ans. Qui a mené à la fermeture de la 4e avenue entre la rue des Lilas-Est et la rue de la Colombière-Est aux alentours de midi aujourd'hui. Et l'enfant donc a été transporté à l'hôpital, on ne craint plus pour sa vie. Le conducteur qui a été pris en charge pour un état de choc. Et ce serait vraiment un bite accident, c'est-à-dire un enfant qui court un peu partout et un conducteur qui arrive. Il y a des témoins que j'ai vus dans différents médias là, qui disent « c'est pas une histoire d'un conducteur imprudent, il y a vraiment juste pas eu le temps de ralentir, de faire quoi que ce soit ». Puis l'enfant courait, puis il est arrivé malheureusement ce qui est arrivé. Mais comme je vous dis, bonne nouvelle, on ne craint pas pour la vie de l'enfant. L'autre accident, qui est plus... j'allais dire cocasse, c'est quand même un blessé important, puis on ne craint pas pour sa vie non plus. Mais une voiture qui a comme rentré dans le bière et frites du côté de la rue du Marais un peu plus tôt aujourd'hui, aux alentours de midi en fait. Et c'est un jeune conducteur qui se serait, de ce qu'on comprend, trompé de pédale. On a... l'habitude de penser quand ce genre d'accident-là arrive, que ça arrive à des individus un petit peu plus avancés dans l'âge. Mais là, c'est un jeune conducteur qui aurait fait une fausse manœuvre pour, malheureusement, de ce qu'on comprend, projeter carrément un piéton qui était devant sa voiture dans la vitrine du Bière et Frites. Espérons que tout se passe bien pour ce piéton-là pour la suite. Sinon, ben c'est beaucoup de réactions par rapport aux tarifs annoncés hier soir par Donald Trump. Aujourd'hui, Ottawa qui va envisager toutes les options en réaction à ces nouveaux tarifs-là. Du côté du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre a qualifié les menaces lancées hier par Donald Trump d'injustifiées et d'inacceptables. Ce que Trump veut taxer, c'est un méchant paquet d'affaires. Là, on ne fera pas toute la liste, mais entre autres, bière, vin, spiritueux, notamment du whisky canadien. Les bâtons de hockey aussi, qui pourraient être taxés, tout comme les patins, d'autres articles de sport. C'est un méchant paquet d'affaires. Et ce matin, en point de presse, Trump s'est fait demander « OK, mais là, ça a-tu un lien avec les feux de forêt? » Parce que dans les derniers jours, le président américain disait qu'il allait peut-être falloir punir le Canada pour laisser notre fumée aller du côté des États-Unis comme ça, sans s'en occuper. Et Trump a dit non, ça n'a pas de lien avec ça, mais on l'envisage toujours. Ça se pourrait qu'on ajoute des tarifs liés aux feux de forêt là, qui arrivent et qui polluent les États-Unis. Nouvelle sportive, Prime Video, la plateforme qui appartient à Amazon, qui va diffuser 7 matchs du Canadien en français au cours de la prochaine saison régulière. C'est des informations obtenues par la presse. On ne sait pas qui assurerait la description ni l'analyse des matchs sur Prime Video. Est-ce qu'on va essayer d'aller voler du monde à TVA Sport, d'aller voler du monde à RDS? J'ai comme l'impression que ça pourrait être ça. RDS qui va diffuser les matchs préparatoires donc et 45 matchs de saison régulière. C'est 15 matchs de moins que la saison passée. Le nombre de matchs diffusés à TVA Sport qui va passer de 22 à 32. La presse qui n'avait pas encore connaissance des détails financiers de la nouvelle entente de diffusion. Et une petite nouvelle de dernière heure aussi dans le sport. Jonathan Quick, l'ancien gardien vedette de la Ligue nationale de hockey, qui deviendrait directeur du développement des gardiens de but chez les Rangers de New York. Donc, lui qui est tout juste à la retraite et qui déjà prend pas une grande pause du monde du hockey.
Max, pendant que tu es dans le sport, on voit ça passer quand même depuis quelques minutes / quelques heures. Là. Ça fait près de deux mois que l'ancien hockey Claude Lemieux est décédé. On se souvient, ça nous avait quand même frappé parce que c'était pendant une série, puis je veux dire, le flambeau, puis tout.
C'était deux jours après.
Deux jours après, on apprend qu'il est décédé. Là, il y a plein de rumeurs qui partent. On comprend qu'il se serait enlevé la vie. C'était comme vraiment gros cette semaine-là. Je me souviens, on avait parlé à Jean Perron, coach Jean Perron. D'ailleurs, la discussion, vous la retrouvez sur la chaîne YouTube de Boulevard, ça avait vraiment été un beau moment, j'ai envie de dire, hommage à travers tout ça, parce que c'est quand même tragique. Et là, il semble y avoir des détails concernant tout ce qui entoure ce décès-là. Là. Puis on peut peut-être rester dans le... Je sais pas si c'est que des rumeurs, je sais pas qu'est-ce qui est confirmé, tu peux peut-être nous raconter.
Bien, moi, je veux même pas en parler des informations qui sortent, parce que, ben honnêtement, là, on dirait que les médias francophones, des fois, allument vraiment tard sur des affaires qui se passent dans des médias anglophones. Le 16 juillet, ça fait plusieurs jours de ça, il y a des informations qui ont commencé à circuler par rapport à la mort de Claude Lemieux, sur ce qui se serait passé dans les heures auparavant, dans les jours, les mois auparavant, puis les problèmes de Claude Lemieux et tout ça. Et le 16 juillet, le fils de Claude Lemieux, Brandon Lemieux, publiait un message sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, comme je vous dis, là, ça sort aujourd'hui au Québec parce qu'on allume en retard, là, puis là, dans tous les médias, ça fait des jours que ça se jase dans les médias anglophones, au point où Brandon Lemieux publiait un message sur les réseaux sociaux en disant « Aujourd'hui, au jour de l'anniversaire de mon père Claude Lemieux, il y a différents médias qui publient des articles remplis de détails intimes par rapport à la nuit durant laquelle il est décédé. Mais certains qui sont vrais, d'autres qui sont de complète fabrication.
Non, c'est ça, parce qu'il y aurait une vidéo qui se serait promenée ou qu'un média aurait obtenu d'images vidéo de la rencontre de Brandon Lemieux avec la police de Palm Beach. Donc, il y a beaucoup de détails là-dedans, veux pas?
Et lui dit, c'est la réalité aujourd'hui des médias, des clics, de l'engagement qui sont priorisés par rapport à la vérité, au respect et à la décence humaine de base.
Il n'y a pas tort.
Et il dit, la communauté du hockey est différente. On a a backbone, une colonne. On a comme valeur la loyauté, le respect, la famille au-dessus de n'importe quoi, et on choisit qui et comment on le supporte. Qui et quoi on supporte, pardon. Puis il dit, je demande à la communauté hockey de mettre un frein par rapport à s'engager sur ces spéculations-là de l'histoire, de donner à notre famille de l'espace, de la dignité, d'avoir notre grief, là,
de deuil, ouais.
Parce que vous comprendrez que je traduis en direct le message de Brandon Lemieux, mais oui, de vivre notre deuil en gros. Puis on va partager qu'est-ce qui s'est passé éventuellement, mais d'ici ce moment-là...
C'est malheureux. Arrêtez de parce spéculer, partout, de gratter, de publier n'importe quoi.
D'ici le moment où on va décider d'en dire plus, ben merci de juste honorer l'histoire de Claude, de célébrer la vie qu'il a vécue, le compétiteur féroce, le gagnant 4 fois de la Coupe Stanley, le père, le grand-père dévoué et le gars qui a laissé une marque indélébile sur notre game, le hockey, et sur plusieurs d'entre nous. J'ai un malaise à voir tous les médias québécois embarqués là-dedans aujourd'hui puis donner tous les détails.
Mais c'est plate, mais on est mal fait. On a une curiosité morbide, on veut comprendre pourquoi un homme comme lui aurait mis fin à ses jours. Il y a tout le temps, c'est tellement plate à dire, mais il y a cette curiosité-là qu'on n'est pas capable de satisfaire tant qu'on n'a pas des réponses.
Il y a un risque avec ça, c'est que, tu sais, quand quelqu'un s'enlève la vie, on cherche une réponse. Mais souvent, c'est un ensemble de réponses. Mais aujourd'hui, on voit certaines informations qui sortent. Puis là, les gens vont faire des liens. Ah, c'est parce que tel événement s'est passé, parce que telle chose a été dite. Honnêtement, c'est sûr que c'est pas le portrait complet.
Ben non. Là, puis tu sais, j'irai pas dans les détails parce que je sais que Max voulait qu'on s'en tienne justement à la publication.
Ben en même temps, si toi tu veux y aller...
Ben non, mais sans donner de détails, parce que de tout moment, si vous voulez les trouver, vous allez les trouver partout. Mais tu sais, on parle de chicane conjugale puis on parle de dépendance, entre autres. Mais c'est juste que je veux dire, les détails un peu plus profonds de ça sont quand même très intimes, effectivement.
Et pourquoi ce serait d'intérêt public?
Ça, c'est l'autre affaire. Fait qu'est-ce que tu as envie d'embarquer là-dedans?
Ça ne nous regarde pas nécessairement dans le détail.
Puis je ne savais même pas si je voulais en parler à la base du fait que c'était partout puis rappeler le message de Brandon Lemieux en sachant très bien. Puis, hey, si j'étais un auditeur, je ferais la même affaire en ce moment. Je serais en train d'aller voir les détails.
Ah, ben oui, allez googler si vous voulez.
Puis je sais qu'en parlant, ça va faire qu'il y a plein de monde qui va aller le voir. Puis que c'est pour ça que je me questionnais à même savoir, on en parle dessus.
Mais je trouve que c'est important que tu en parles parce que c'est important qu'on parle de ce qui est intérêt public puis ce qui ne l'est pas.
Moi, c'était surtout.
C'est un débat important.
Parler du message de Brandon, son fils, d'il y a quelques jours, de dire, hey,
écrit du cœur.
Regarde, un jour, là, on va vous les donner, les détails qu'on veut vous donner. En attendant, serait-tu possible de nous respecter, puis de pas encourager ces médias-là, ces blogs-là, ces whatever, qui donnent beaucoup de détails très privés, pendant que nous autres, ben moi mon père est mort, puis j'essaie juste de vivre mon deuil.
Oui. Puis, tu sais, imaginez que si réellement, parce que l'affaire, c'est qu'Anthony l'a dit, souvent, c'est un amas de situation, là. Je dis, si on se met à pointer du doigt une soirée précise qui a tout déclenché. Non. Imaginez la lourdeur supplémentaire sur les épaules de la famille.
Les intervenants en prévention du suicide le disent tout le temps, c'est multifactoriel. Puis on a beau vouloir trouver le moment, la raison, c'est rarement une seule chose. Puis ça nous appartient pas.
Mais non.
C'est parce que quand quelqu'un est connu, on a l'impression que la personne nous appartient un peu.
On est mal fait, hein?
Imaginez que c'est un membre
de
votre famille.
On a droit à des explications. Non, pas tout.
Non, c'est pas un droit qu'on a, là.
Il est 17h37. Je veux compléter ce bulletin de près ou de loin avec... je ne sais pas si vous avez vu passer la nouvelle fraude à la mode, mais peut-être avertir vos proches. C'est une nouvelle fraude FaceTime. Puis ça a attiré mon attention parce que je ne comprenais pas comment tu peux te faire frauder par FaceTime, honnêtement. Là. Mais le but est encore une fois de vider votre compte bancaire. Et là, c'est Apple qui met en garde les gens qui ont des iPhones, des iPads, des compagnies, parce qu'il y a une vague en ce moment d'appels frauduleux sur FaceTime. Comment les fraudeurs fonctionnent? C'est qu'on va se faire passer pour des employés d'Apple ou de votre banque. Fait qu'on va se mettre le plus crédible possible. Et ce qu'on fait, c'est que on commence par vous envoyer, dans le modus operandi, là, un texto pour vous dire ou un appel téléphonique pour vous alerter qu'il y a une activité suspecte sur votre compte bancaire, votre carte de crédit. Là, le fraudeur se fait passer pour, par exemple, un conseiller financier, un technicien d'Apple. Et là, on vous demande de poursuivre la conversation sur FaceTime pour des vérifications supplémentaires pour s'assurer de la crédibilité aussi, tu sais, et compagnie. Et là, ben, les gens peut-être qui sont un peu plus vulnérables vont avoir tendance à se dire, ben là, toutes ces étapes-là, j'imagine que, tu sais, faut faire confiance. Et là, le fait de voir le visage à l'écran, d'utiliser une application officielle d'Apple, ça rassure instinctivement les victimes. Et là, ben, c'est là que le piège se referme. Parce que là, l'escroc vous convainc de partager votre écran sous prétexte de vous aider à sécuriser votre compte. Mais là, vous comprenez que quand vous partagez votre écran, ben, à ce moment-là, le fraudeur voit tout ce qui a s'affiché à l'écran, donc vos identifiants, vos mots de passe, code de sécurité à usage unique aussi qu'on vous envoie par SMS, parce que souvent, c'est la façon de faire une double authentification. Et avec ces informations-là, bien, facilement, un claquement de doigts peut vider votre compte. Il y a même des cas un peu plus tannants où les criminels, les fraudeurs, vont pousser la personne à installer l'application d'accès à distance, là. Tu sais, pour contrôler votre appareil, pour t'aider. Ça va être plus facile, moi, le faire. Ça va vous éviter de perdre du temps, madame. Et là, bien, vous comprendrez qu'ils ont le contrôle de vos appareils à distance. Distance, puis eux autres peuvent ne pas se déconnecter, dans le fond. Fait que c'est une nouvelle fraude qui, en ce moment, fait fureur. Je pensais jamais qu'on se rendrait là, parce que dans ma tête, c'est là que tu t'en rends compte quand tu tombes face à face avec un fraudeur.
Ouais, souvent. Puis, ben, en tout cas, moi, il n'y a pas vraiment de chance que ça m'arrive, parce que même quand mes amis me FaceTime, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis je raccroche. Il faut vraiment que tu prennes rendez-vous avec moi. Ça, c'est vraiment des choses. Mais c'est-tu à quoi ça me fait penser?
Vas-y.
Tu sais, des fois, nos parents, là, on arrive. On va souper chez nos parents, puis là, ils veulent qu'on répare leur iPad, puis leur email, puis qu'on retrouve le mot de passe, puis le Wi-Fi ne marche plus. Puis là, on se retrouve comme des techniciens TI amateurs, ouais, à chaque fois.
Absolument.
Tu sais, des fois, ça ne nous tente pas. Mais je pense que c'est mieux de le faire et d'en profiter pour faire un peu de sensibilisation entourant les possibilités de fraude. Tu sais, si c'est plate, là, mais mettons une personne plus âgée à qui ça arrive, puis que justement, son téléphone est buggé depuis un petit bout de temps, puis dit « Ah ben justement, tu sais, il y a un technicien de chez Apple qui m'appelle puis qui va m'aider. »
Va prendre son aide.
Tu sais, je pense que quand nos parents se tournent, ou nos grands-parents se tournent vers nous pour nous demander de l'aide, soyons ouverts parce que, justement, ça nous permet de garder un petit peu le contrôle, entre guillemets,
ah,
de faire
le
ménage
cœur
de leurs affaires.
Tu sais, imaginez, t'as travaillé toute ta vie, t'es rendu à 75-80, puis tu te fais vider ton compte.
C'est
pour
triste.
Vrai, là.
Puis tu sais, tu reverras plus jamais cet argent-là. Vous le voyez, là, les témoignages de gens qui se font frauder puis qui se font voler leur argent.
Puis les policiers le disent, malheureusement, là, il y a une limite à ce qu'on peut faire. On monte des dossiers, on prend des notes. Oui, il faut appeler la police parce que nous autres, on essaie justement de monter ces dossiers-là, mais souvent, ces gens-là sont même pas
puis
ici.
Les banques remboursent pas toujours,
ben
rembourser, c'est ça. Fait qu'il
couvert,
faut se protéger, là.
C'est vraiment d'une tristesse. Fait que bref, c'est la nouvelle affaire à la mode, sachez-le. Je veux saluer, en passant, si vous êtes nouveaux auditeurs, 88-971-1021, il y a Stéphane qui nous a écrit pour nous dire « Hey, ma conjointe Bianca Prou, on te salue Bianca en passant, nouvelle auditrice de Boulevard, étant donné un changement d'horaire pour son travail. Fait que, ben, écoute, Bianca, bienvenue dans
Salut.
La famille. Bienvenue à Boulevard 1021. Si tu veux nous texter, t'es la bienvenue au 88-971-1021, mais c'est le fun parce qu'on a souvent l'impression que c'est les mêmes personnes, tu sais, qui nous écoutent. Nous autres, on voit les textos apparaître, on a nos habitués, on a notre monde qui nous écrit.
On les aime, là. Mais on aime ça, le nouveau
monde
aussi.
Mais c'est drôle quand il y a des nouveaux textos, tu te dis comme crimbin, il y a quelqu'un qui ose embarquer dans la discussion, dans la conversation, fait que gênez-vous pas. On va faire une petite pause, puis au retour de la pause, on va essayer de jaser ensemble, sans qu'on soit interrompu, de ce qu'on regarde sur les plateformes ces temps-ci. Hier, on vous a partagé une coupe d'affaires, on vous les rappellera, mais je sais qu'Antoine a regardé certains trucs, Max aussi. Moi, je suis orpheline et à la recherche en ce moment. Donc, si vous avez des suggestions, 88-971-1021 texto.
Le retour.
Bon, on va se le dire, on n'est pas nécessairement les trois plus grands cinéphiles de cet univers.
En effet.
Mais on regarde des affaires de temps en temps. On s'intéresse quand même à une couple d'affaires. Hier, on vous a partagé, Anthony et moi, un documentaire frappant qu'on a écouté sur Netflix. En fait, frappant, traumatisant.
Oui, vraiment.
Si vous êtes des fans de croisières, peut-être que ça va changer les choses. Peut-être pas non plus. C'est des tragédies qui arrivent pas souvent, heureusement. Mais je vous conseille quand même l'écoute de ce documentaire-là avant qu'on passe aux autres suggestions. Shipwrecked, Nightmare at Sea. C'est sur Netflix dans le top 10. On revient en 2012 où le Costa Concordia, qui est un énorme bateau de croisière, de vacances, a malheureusement crashé sur une roche, ce qui a fait que vous comprendrez que naufrage et compagnie. Puis là, 32 personnes, malheureusement, sont décédées dues à des problèmes techniques. Grosse histoire avec le capitaine aussi qui a juste quitté le bateau.
Bye-bye.
Pour sa survie à lui pendant que les gens se battaient littéralement pour la leur. Et ce qui est particulier avec ce documentaire-là, c'est qu'il y a un parallèle facile à faire avec le Titanic.
Mais oui.
Mais le Titanic, c'est à une époque où on n'a pas des caméras vidéo dans nos mains, là, puis on peut tout filmer, puis on est allé beaucoup par reconstitution, c'est historique, on a fouillé. Tandis que le Costa Concordia, ça remonte à 2012, là, c'est hier. Là. Et on est à une époque où là, on les a, les caméras.
Mm-hmm.
Et t'as des gens qui témoignent pour ce documentaire-là, qui, eux, avaient pris énormément de vidéos par peur de ne plus être de cette terre et qu'on laisse justement des traces derrière pour aider à comprendre ce qui s'est passé. Et on s'est basé sur ces vidéos-là. Fait que tout ce qu'on voit, ce sont de réelles images, c'est le vrai monde, c'est les vraies photos et des gens qui étaient sur ce bateau-là ce soir-là qui ont heureusement survécu. C'est capoté comme documentaire. Ça dure une heure. T'as des frissons tout le long. C'est bien monté. Ça termine avec la journaliste qui a couvert l'événement et qui nous partage les derniers faits judiciaires. Là. Voici qui a été arrêté, pourquoi, qu'est-ce qu'on a compris après enquête. C'est vraiment un des solides documentaires sur Netflix, ouais. Mais ça fout la chienne.
Ça donne vraiment pas le goût. Puis ah! En tant que personne qui n'a pas très confiance en l'humanité, c'est venu renforcer ça. Ouais, moi, mettons, ouais. Quand j'étais à quelque part, j'ai tendance à regarder sur les portes de sortie et à me demander s'il fallait qu'il arrive quelque chose.
Ah, des plans d'évacuation.
Puis aussi, je trouve que les événements tragiques font pas toujours sortir le meilleur des gens.
Effectivement.
Puis tu sais, dans le film Titanic, tu voyais des gens plus aisés qui s'organisaient pour avoir des places dans des bateaux, même si c'était censé être les femmes et les enfants d'abord.
Ouais.
Et malheureusement... 100 ans plus tard.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé.
C'est
là.
Fascinant.
Tu vois dans le documentaire qu'il y a des gens qui jouent du coude, puis la petite famille là, qui se retrouve sans bateau de sauvetage avec un bébé d'un an dans les bras. Là.
À littéralement penser à nager, parce que le bon côté est un grand mot, il y a quand même 32 personnes qui ont péri, mais on n'était pas au milieu de l'océan. Là. C'est-à-dire que...
Ils sont à quelques centaines de mètres de la rive.
Oui, d'une île, ce qui... peut aider d'une certaine façon, ce qui a probablement sauvé énormément de gens quand tu y penses.
Et malheureusement, dans le bateau, alors que les gens sur la rive, les autorités demandent « Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin d'assistance? » On balait sous le tapis pendant plusieurs heures qu'est-ce qui est en train vraiment de se passer.
Beaucoup d'erreurs qui auraient pu sauver.
C'est un peu décourageant.
Ah maintenant. Oui, des erreurs qui auraient pu sauver des vies, puis des barrières de langue, des problèmes aussi peut-être de formation. C'est une époque, il faut dire, où les bateaux de croisière prenaient beaucoup, beaucoup d'ampleur au niveau touristique. Puis le bateau, le Costa Concordia, c'en était un des très gros. Puis le capitaine avait, malgré le fait qu'il y a ses années de prison et compagnie parce qu'il n'est pas blanc là-dedans, mais avait levé le flag à plusieurs reprises sur le staff qu'on engageait en masse parce qu'on voulait être capable de répondre à la demande touristique. L'affaire, c'est que quand tu engages comme ça puis tu fais de la formation rapide sur des bateaux aussi gros qui sont aussi techniques...
Avec la barrière de la langue en plus...
Ça peut être...
En fait, c'est que la compagnie voulait en faire un bouc émissaire aussi pour dire, voyez, c'est la faute de ce dude-là et ne pas prendre de responsabilité, mais évidemment la responsabilité était partagée entre plusieurs facteurs différents. Mais tu sais, toi, là, quand c'est toi qui es sur le bord du bateau avec ton bébé dans les bras, puis tu te demandes s'il va falloir que tu nages dans les eaux froides avec ton bébé dans les bras épuisé.
Ah non, la panique,
c'est la faute du capitaine ou de la communication? On s'en fout. Ça a été mal géré. Puis,
c'est tragique pareil.
Des dizaines de personnes qui ont perdu la vie là-dedans. Hey, je voulais vous recommander quelque chose qui est de l'ordre du documentaire aussi, c'est Les voisins de l'enfer, Worst Neighbor Ever.
Hey, j'en ai entendu parler de ça.
Ça, c'est... Des fois, je me demande pourquoi j'écoute des affaires comme ça, mais des histoires que tu regardes puis tu te dis, ouf, ma vie va bien à comparer de ces gens-là.
Mais avais-tu regardé celui sur la voisine épouvantable?
Oui, c'est dans le même genre, OK? C'est vraiment le même genre d'histoire, là. Puis le film auquel tu fais référence, c'est une voisine qui... C'est une chicane de voisins qui finit par un meurtre, finalement.
Ouais.
Mais Worst Neighbor Ever, il y a une série qui s'appelait Worst Roommate Ever, il y a Worst
Ex Ever. Ouais.
C'est dans la même lignée que tout ça. C'est assez divertissant. C'est du true crime. Et il y a 4 épisodes dans cette série-là. Écoute, je te les résume rapidement, là. Mais une cousine, entre guillemets, qui devient la voisine d'une famille et qui harcèle constamment cette famille-là jusqu'à vouloir... La cousine devient obsédée par l'idée de faire condamner, envoyer en prison sa voisine. Deuxième épisode, une voisine qui se fait un nouveau chum et ça se termine...
OK, parce que c'est quatre situations complètement différentes.
Différent.
Ça, c'est le fun. OK, c'est pas engageant. Là.
Une voisine qui se fait un nouveau chum et ça se termine... En fait, ça culmine par une explosion. La maison explose et ça met tout le quartier en feu. Épisode numéro 3, une famille qui se retrouve avec un squatteur. Dans le fond, les voisins, c'était une famille. Ils ont été évincés de leur maison par le propriétaire. C'était des locataires. Et là, il y a un des fils adultes de cette famille-là qui revient squatter, qui dort dans le cabanon et qui est persuadé que les voisins l'ont dénoncé à la police. Puis visiblement, le gars est en psychose et ça se termine très, très mal. Puis finalement, une voisine arnaqueuse, une con woman sur le crystal meth dans un bloc appartement qui, écoute, je sais pas comment tu réagirais si t'apprenais que à l'autre bord du mur de chez vous, ta voisine a découpé un corps.
Mon Dieu,
Seigneur. J'en dis pas plus. Donc, c'est dans la catégorie « Mon Dieu, ma vie va bien et j'ai des bons voisins. »
Mais on est attiré par ces documentaires-là. Le Worst Ex Ever, là, il y a l'histoire, entre autres, là-dedans de Wade Wilson.
Incroyable.
On a tellement parlé dans les dernières années parce qu'il a été reconnu coupable des meurtres de Christine Melton et Diane Ruse en 2019. Donc, c'est relativement récent. Et si le nom de Wade Wilson vous dit rien, c'est un gars qui est tatoué à grandeur d'en face, là, mais le gars a une belle gueule.
Un beau garçon au départ.
Ça rappelle Ted Bundy un peu. Oui. Ça rappelle cette histoire-là. Et on l'a mis dans Worst Ex Ever parce que vous comprendrez que les épisodes, c'est justement sur des filles qui se ramassent avec des gars. Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Complètement détraqués, là.
Mais souvent, c'est ça. Dans cette série-là, c'est des gars qui sont des arnaqueurs professionnels. Et qui ont des problèmes de violence, les filles se font voler tout leur argent.
Je veux quand même, les filles sont pas particulièrement intelligentes à tout coup là-dedans. Là. Je veux dire, tu sais, Wade Wilson, le nombre de demandes en mariage que ce gars-là a reçues en tôle.
C'est comme s'il perdait la tête. Il tombe amoureuse. Mais tu sais, Audrey, il y a des filles, là. Il y a un gars qui se fait condamner pour avoir tué une femme, là, mettons. Puis là, il y a des filles qui vont écrire à ce gars-là en prison. Ces gars-là se marient des fois en prison.
Ah, c'est complètement
fou. Il y a vraiment
fou.
Quelque chose de particulier. Ouais. C'est comme le bad boy poussé à l'extrême.
Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? T'es spécial, toi, tu tueras pas. Tu sais,
tu vas le sauver, t'aimes le danger.
Ah, ça me fascine.
Je peux pas te l'expliquer.
Je veux dire, le gars, tu me montres une photo sans m'expliquer pas en tout ce qu'il a fait dans sa vie, lui-là. C'est un beau gars, là. Il paraît bien, tu comprends.
Ouais.
Là,
il y a quand même une couple de red flags.
Ouais, ben, définitivement. Les tatouages en face en est déjà un pas pire, là. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, fait que ça me fascine de voir à quel point ces femmes-là deviennent complètement aveugles.
Oui.
Il n'y a plus de sens, là. Il n'y a plus rien de logique.
Puis, tu sais, nous, on écoute ça, puis on se dit...
On est divertis, puis on se sent normal.
Ben c'est ça. Ben, c'est comme quand tu écoutes Ultimatum, tu te dis, mais il me semble que je ne ferais pas ça. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça dans notre plaisir coupable d'écouter ça, mais j'ai été scotchée, je l'ai bingé, là, cette série-là.
Mais tu me donnes le goût, surtout si c'est des épisodes qui sont relativement indépendants. Je trouve que c'est comme moins engageant.
Tu peux
en
écouter 4 à 4 mois d'intervalle, si tu veux.
Tu parles, avant que tu nous parles de La petite maison dans la prairie, tu parles de The Ultimatum. Là. Hier, je suis arrivée au dernier épisode, avant le dernier épisode. C'est celui où c'est que comme tout est plein de marde, puis là, tout d'un coup, c'est intéressant. Genre, t'as supporté 8 épisodes juste pour cela, là. Puis c'est drôle, mon chum est vraiment, vraiment pas partant pour écouter ça. Puis hier, il a pogné les 30 dernières minutes, puis là, c'était comme, elle a rendu là. Mais là, le dernier épisode, puis il sort demain. Ça me met tellement maudit, ces affaires-là.
T'es chanceuse, Audrey, parce que moi, des fois, ça m'arrive, c'est dans une semaine. Là.
Ah, c'était épouvantable. Des fois, c'est plus loin que ça, même, là. Tu sais, les réunions, puis ces bébelles-là. Le pire, c'est que je vous le conseille même pas, là. C'est une série de télé-réalité où ce sont des gens qui se donnent un ultimatum. Si tu me maries pas, je m'en vais. Puis là, ben, ça date d'autres couples pour voir à quel point leur couple est fort ou pas. Vous comprendrez que ça finit jamais bien, bien, bien. La petite maison dans la prairie.
Oui, je voulais vous en parler. Puis c'est très différent du reste. Là. On a parlé d'un naufrage, de voisins qui font exploser des maisons, de couples qui se chicanent. Moi, je suis vraiment pas dans le drama. C'est Véro qui nous en avait parlé, que ça sortait là, il y a quelques jours. Puis j'ai décidé de l'écouter en me disant, je vais écouter un ou deux épisodes, rien que pour savoir.
Avais-tu écouté la version originale de 74?
Non. Fait que moi, j'ai pas de comparatif. Okay. Honnêtement, ça m'a surpris parce que je pensais pas aimer ça tant que ça. Moi, j'avais beaucoup aimé la série Yellowstone et les prequels 1883 notamment. Là, tu suis vraiment des pionniers. Donc, on est vers la ruée, vers l'ouest des États-Unis. Mais dans 1883, c'était vraiment violent. Ça n'arrêtait pas une seconde. Il y avait des maladies, il y avait des blessures, il y avait des Autochtones qui attaquaient, il y avait des voleurs, il y avait des viols. Ça n'arrêtait pas. Là, c'est beaucoup plus mollo. Oui, ils ont des problèmes. Là, c'est des pionniers américains qui partent de rien puis qui se construisent une maison dans la prairie. Mais c'est très slow TV. Puis moi, ça...
On est-tu concentré encore sur Laura?
Oui.
Okay, parce que c'est son histoire, en fait. Là. Ouais, c'est inspiré d'un livre, en fait, La petite maison dans la prairie. Là.
Donc, ça tourne beaucoup autour de la plus jeune des deux filles. Mais ça m'a fait penser, côté vibe, là, à Downton Abbey. Puis même la musique ressemble.
OK.
Tu sais, dans Downton Abbey, cette série qui se passe en Angleterre dans un contexte complètement différent où tu suis une famille d'aristocrates avec leurs employés. Là, on n'est pas du tout dans la même trame narrative, mais c'est le même rythme, la même lenteur dans les histoires, mais c'est vraiment relaxant.
C'est sorti il y a à peine 2 semaines. J'ai pas encore eu la chance d'écouter un épisode. Moi, ma mère, j'ai écouté des épisodes avec elle de La petite maison dans la prairie originale. Ça a été diffusé, ça, de 74 à 83. Là. Comme je vous disais, vraiment, c'est fait d'une série de romans. C'est une adaptation écrite par Laura Ingalls, qui est la personnage principale que tu suis de quand elle est petite jusqu'à mère de famille et institutrice. Puis moi, j'avais tellement aimé ça. Fait que j'ai vraiment à date, t'apprécies l'expérience?
Tu vas avoir une perspective sûrement différente parce que tu vas comparer. Moi, j'avais pas cette comparaison-là.
Mais t'apprécies.
Ben, je pensais jamais écouter tous les épisodes. Puis finalement, je les ai comme presque bingés.
Oh, ouais, hein?
Donc, puis je suis toujours intéressée aussi à voir comment ils vont traiter la question autochtone là-dedans. Parce que je trouve que des fois, on idéalise les Autochtones ou on diabolise les Autochtones. Je pense qu'ils ont trouvé un bon équilibre.
Ah, mais écoute, je vais commencer, puis on aura l'occasion de s'en reparler, c'est sûr, parce que j'étais pas sûre. Moi, je suis tout le temps frileuse avec ces affaires-là. On dirait les reboots, on dirait que je veux pas gâcher ma petite nostalgie intérieure. Donc, si vous avez des suggestions, 88-971-102, on va vous lire demain, assurément, parce qu'il est déjà 18h. Donc, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain pour le retour de Boulevard 102. Je m'appelle Audrey Antonine, que vous avez entendu autour de la table, et Max Larouche. Salut, là!
Salut!
Bye!
Tous les midis, à Boulevard 102.1, on en jase.
Salut la belle gang d'auditeurs. Hey, comme vous pouvez le constater, l'été est bien installé, la chaleur est là. Ça veut dire que l'équipe de On en jase, on s'adapte un peu pour la saison estivale.
Absolument, Jeff. Le caucus fait une pause pour l'été, mais on sera de retour et en